France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 23 novembre. Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-9. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, ultimes arbitrages avant les annonces du chef de l'État demain soir. Pas de déconfinement général à l'horizon, mais une adaptation des règles sanitaires avec une première étape sans doute dès la fin de la semaine. On voit ça avec vous Agnès, après les autres titres.
Les mises en garde des médecins qui redoutent une troisième vague après les fêtes et les marchands de jouets impatients de rouvrir à un mois de Noël. Il est le deuxième chef d'État après Jacques Chirac à comparaître devant la justice. Début du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Paul Bismuth. Un numéro de téléphone anonyme et gratuit pour les pédophiles. Et puis la disparition d'une grande dame de la résistance, Noëlla Rouget. Elle avait demandé la grâce de son bourreau.
Et les invités du 7-9 ce matin à 7h50, Léa.
Oui, quelques minutes de satire, de légèreté et de drôlerie dans ce monde sombre et confiné. Je vous propose une fable morale à la manière de Voltaire sur Greta Thunberg. Et le pangolin, elle est très réussie, signée de l'académicien Marc Lambron qui sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa, on se retrouvera Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'épidémiologiste Dominique Costagliola, elle est directrice de recherche à l'INSERM. On parlera évidemment de l'épidémie de Covid, vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Et de 6 pour le sixième jour consécutif, les chiffres de l'épidémie de Covid sont en baisse. Un peu plus de 13 000 nouvelles contaminations hier contre près de 18 000 samedi. Le nombre de décès diminue également, 215 contre 276 la veille. Le chiffre de malades en réanimation reste lui stable à 4 491. C'est donc dans ce contexte de ralentissement de l'épidémie qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole demain soir à 20h après un conseil de défense. Simon Le Baron, le chef de l'État doit trouver le juste ton entre espoir et prudence.
Ne surtout pas donner l'impression aux Français que c'est youplala, résume un conseiller ministériel. Certes, la décrue de l'épidémie s'est poursuivie ce week-end, comme l'espérait l'exécutif. Cela renforce l'hypothèse d'une réouverture des petits commerces et d'une reprise des cultes dès samedi. Cela devrait permettre aussi au président de dessiner des perspectives encourageantes pour Noël et au-delà, mais il lui faudra trouver les mots justes. Desserrer la vis, pour l'économie principalement, tout en expliquant qu'on ne peut toujours pas, pas tout de suite, nous déplacer librement ni vivre normalement notre vie privée. Car il y a toujours cette épée de Damoclès, la troisième vague. Les Français supportent de plus en plus mal les mesures qui leur sont imposées. 1 sur 5 souffre de troubles dépressifs selon les autorités sanitaires, 2 fois plus qu'à la rentrée. Mais ils supporteraient sans doute encore plus mal un reconfinement. La troisième vague, voilà la grande crainte d'Emmanuel Macron. Ça l'obsède, confie un proche. Et voilà pourquoi il veut à tout prix éviter de déconfiner trop rapidement comme au printemps.
Cette troisième vague, c'est aussi ce que redoute Jean-François Timsit. Il est chef de service de réanimation à l'hôpital Bichat à Paris. Et il met en garde contre un allègement trop rapide des restrictions, notamment dans les commerces à l'approche de Noël.
On est quand même très très inquiet, hein, parce que quand on est sorti du confinement en mai, il ne faut pas oublier que le taux de positivité des tests globaux en France était 3-4%, alors que là on est plutôt à 16-17. Dans mon service à l'heure actuelle, on est aux alentours de 60% des lits habituels de réanimation qui sont occupés par des Covid positifs. Ce week-end, on a encore reçu 3 malades. On a doublé une des listes de garde. Donc relâcher dès maintenant, c'est assez compliqué. Qui dit commerce dit que les gens se baladent dans la rue, que les gens discutent ensemble. Ne serait-ce que moi, ce week-end, je suis allé dans un centre commercial et j'ai vu un monde fou autour de moi, énormément de gens. Et je prédis un retour de bâton à la sortie des fêtes, malheureusement très rapide. Tel que je vois les choses, j'ai peur qu'à la sortie des vacances, dès janvier-février, on voit remonter assez nettement les taux. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne quand même.
Jean-François Timsit, interrogé par Véronique Julia. Le vaccin fait également partie de la stratégie de lutte contre l'épidémie. Aux États-Unis, les premières campagnes de vaccination pourraient démarrer dès mi-décembre. La France, elle, aura signé d'ici la fin du mois 6 contrats d'approvisionnement, selon Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de l'Industrie. Chaque contrat correspondant à 2 à 300 millions de doses de vaccins. 15% des vaccins achetés par l'Union européenne sont d'ailleurs destinés à la France. Les annonces du chef de l'État demain devraient donc confirmer la réouverture des commerces non essentiels, la reprise de la pratique du sport pour les enfants et des célébrations alors que les catholiques ont de nouveau manifesté hier. Parmi les commerces les plus impatients de rouvrir, évidemment, les magasins de jouets à un mois des fêtes. Reportage dans le magasin Les Jouets Français, une boutique installée à Saint-Mittre-les-Remparts. Reportage signé Romane Porcon.
Et ces annonces, Pamela Magotte, fondatrice des Jouets Français, les attend avec impatience.
Je sens l'angoisse qui monte. Il faut que les commerçants puissent travailler. On ne peut pas laisser les gens crever, en fait. Si en plus, au lieu d'accueillir 10 personnes, il faut qu'on en accueille 2, ça veut dire qu'on fait 20% du chiffre qu'on aurait dû faire sur une heure, par exemple. On n'a pas d'autre choix que d'aller au charbon, de travailler. Mais il n'empêche qu'on a perdu le mois de novembre. L'année dernière, c'est 38% de mon chiffre d'affaires.
Hein. Alors, pour sauver les meubles, elle a totalement transformé son magasin.
C'est plus un magasin, c'est un entrepôt logistique. On a fait des grands rayons sur palette. Ça nous permet, quand on prépare nos commandes, d'être beaucoup plus efficace. Là, vous avez tout un pack pour créer de la limonade, des mini sapins de Noël que vous pouvez faire pousser. Tous les salariés ont été formés également à la logistique, puisque à la base, ils sont vendeurs. Du coup, c'est pas le même métier.
Et leurs efforts sont récompensés.
C'est entre 50 et 100 commandes. L'année dernière, on était peut-être à 30 par jour. Les gens ont pris conscience que la fabrication française, elle est de belle qualité, qu'elle crée de l'emploi. Surtout qu'on a un vrai savoir-faire en France. On a une vieille image du jouet français. Jouer en bois. En fait, non, il y a tout. Vous regardez, on a des ardoises, on a plein de trucs en tissu, on a des biberons, on a vraiment plein d'autres choses et que j'adore.
Elle espère donc pouvoir ouvrir un troisième magasin dès l'année prochaine. Saint-Mitre-les-Remparts, Romaine Porcon, France Inter.
L'épidémie de Covid-19 a bouleversé les habitudes des salariés avec le télétravail devenu la norme et cela va sans doute se poursuivre. D'où la nécessité d'encadrer les pratiques. Une ultime réunion patronat-syndicat est prévue cet après-midi avec encore de gros point de discussion sur la définition même des postes télétravaillables, sur la portée du texte, contraignant ou pas, et sur la question des frais professionnels. Et puis la liste des secteurs ou des grandes entreprises qui ont beaucoup souffert ces derniers mois s'allonge, avec les difficultés désormais affichées par Danone, le géant français de l'agroalimentaire. Le secteur des eaux, qui comprend notamment Evian et Volvic, enregistre des pertes de revenus colossales, au point que le PDG doit présenter d'ici une heure un plan d'adaptation. Le détail dans le journal de 8h.
Il est 7h07, Agnès, Nicolas Sarkozy face à la justice.
L'ancien chef de l'État est attendu à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de corruption et trafic d'influence. À ses côtés, son ami de 40 ans, l'avocat Thierry Herzog, poursuivi également pour violation du secret professionnel. Tout comme Gilbert Azibert, ancien haut magistrat de la Cour de cassation, qui ne sera pas présent pour des raisons de santé. Delphine Gocho, cette histoire, c'est celle des écoutes, baptisée aussi dans les médias l'affaire Paul Bismuth.
Cette affaire, c'est un peu comme une poupée russe. Lorsqu'on la tourne, une autre apparaît. C'est en plaçant sur écoute les téléphones de Nicolas Sarkozy en 2013, dans le cadre de soupçons sur le financement libyen de sa campagne, que les magistrats interceptent une ligne dédiée à un unique correspondant, l'avocat de l'ancien président Thierry Herzog. Deux téléphones portables achetés par le pénaliste lui-même en janvier 2014 à Nice, au nom de Paul Bismuth, un ancien camarade de lycée de Thierry Herzog. Pour le parquet national financier, ces téléphones parallèles ont servi à mettre en place un pacte de corruption avec Gilbert Azibert, afin d'obtenir des informations confidentielles dans un autre dossier, celui des agendas de Nicolas Sarkozy, saisi pendant l'enquête Bettencourt pour laquelle il a bénéficié d'un non-lieu. En échange de ces informations, la promesse d'aider le haut magistrat à obtenir un poste à Monaco, un poste d'ailleurs qu'il n'obtiendra jamais, tout cela est grotesque, injurieux selon Nicolas Sarkozy, pour qui toutes ces écoutes n'avaient qu'un but, se payer Sarkozy.
Et le procès doit durer un mois. Et puis le procès des attentats de janvier 2015 doit lui reprendre ce matin, en principe, car la comparution en visioconférence de l'un des accusés qui souffre toujours du Covid est loin de faire l'unanimité parmi les avocats de la défense comme des parties civiles. La Cour d'assises spéciale de Paris doit se prononcer ce matin. Dossier à retrouver sur franceinter.fr. Soigner les bourreaux pour éviter de nouvelles victimes. C'est l'un des axes de la lutte contre les violences faites aux enfants. Il y a un an a ainsi été lancé un numéro d'écoute à destination des pédophiles. Ce numéro devient aujourd'hui national, sans moyens supplémentaires. L'objectif est de proposer une écoute pour éviter les passages à l'acte. Delphine Evenou.
Ce numéro, c'est un premier pas.
Le fait de pouvoir le faire par téléphone, ça permet de sentir plus à l'aise.
Alessandra Conti, psychologue, participe à l'expérience depuis plusieurs mois.
Il y a des personnes pour qui c'est plus simple d'engager la conversation et expliquer les raisons qui ont poussé à l'appel. D'autres personnes pour qui ça peut prendre quelques minutes, parfois dans le silence. À partir du moment où il y a un appel, on considère qu'il y a une souffrance quelque part. L'appel, c'est une demande d'aide.
Et cette demande aboutit ensuite à une orientation vers un parcours de soins adapté avec des professionnels formés, peu nombreux, explique Walter Albardier, responsable du CRIAVS d'Île-de-France, le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
Parfois, certaines personnes ont déjà plusieurs fois fait des tentatives et se sont retrouvés un petit peu face à des gens qui les repoussaient un petit peu. Et alors bien sûr que ça nous met face à des discours qui sont parfois très compliqués à entendre. Fermer les yeux, ne pas entendre, c'est se mettre nous tous en danger et mettre nos enfants en danger. On est dans une société où il faut désigner les gens suite à un acte. Bah là, peut-être que la question, c'est au contraire d'aller donner, tendre la main pour éviter qu'il y ait des actes.
Depuis le début de l'expérimentation, 253 personnes ont appelé ce numéro. L'extension du dispositif devrait donner un coup d'accélérateur. En Allemagne, où il existe depuis 15 ans, 10 000 appels ont été reçus.
Et ce numéro gratuit et confidentiel pour les pédophiles est donc le 0806 23 10 63. Le Vendée Globe avec au coude à coude en tête de la course Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Jean Le Calme est troisième alors qu'Alex Thompson recule en quatrième position en raison de réparations à faire sur son monocoque. Et puis en tennis, première victoire en Masters du Russe Daniil Medvedev qui au cours du tournoi de Londres a battu successivement Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem en finale.
Et à 7h11, Agnès, on termine avec un destin français.
C'est le titre que l'on pourrait donner à la biographie de Noëlla Rouget, morte hier à l'âge de 100 ans. Résistante, ancienne déportée, fervente catholique et militante viscérale contre la peine de mort. Toute sa vie, Noëlla Rouget s'est battue pour celle des autres jusqu'à demander et obtenir la grâce pour l'homme qui l'a envoyé dans les camps. Jérémy Lange l'avait rencontré en début d'année à Genève. Il signe ici son portrait.
Noëlla Rouget a à peine 20 ans quand elle devient agent de liaison dans la résistance à Angers. En 1943, la Gestapo l'arrête avec son fiancé Adrien. Lui est fusillé, elle est déportée au camp de Ravensbrück. À sa libération en 1945, elle ne pèse plus que 32 kilos et souffre de tuberculose. Si elle a survécu, disait-elle, c'est sans doute grâce à la foi.
Elle ne m'a jamais quittée, même en prison, même dans les moments très très pénibles que j'ai vécu. Elle m'a toujours accompagnée, heureusement, peut-être elle m'a aidée.
Une fois qu'il la pousse à écrire au général de Gaulle pour demander la grâce de son bourreau Jacques Vasseur, condamné à mort, un geste qui lui vaudra l'incompréhension de nombre de rescapés des camps.
C'est une décision de principe contre la peine de mort, étant donné mes convictions religieuses, je ne voulais pas qu'il soit condamné à mort.
Vasseur sera finalement épargné sans jamais remercier Noëlla Rouget qui lui envoyait des lettres en prison. Elle refait sa vie en Suisse, fonde une famille, témoigne devant des élèves et les accompagne lors de visites dans les camps et respecte à moitié les dernières volontés de son fiancé assassiné qui lui demandait d'être heureuse et de l'oublier. Être heureuse, je l'ai été en grande partie, confiait Noëlla Rouget, mais l'oublier complètement, je n'ai pas réussi. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et Fabrice Drouel avait également consacré un numéro d'affaires sensibles à Noëlla Rouget, c'était le 23 octobre dernier et c'est à retrouver en podcast.
Merci Agnès Soubiran.